Ben, je voulais déjà dire un petit mot sur notre société savante, parce que je vois que vous êtes en master et en doctorat. Et Tamara et moi-même, on se connaît par le biais de la SAGEF. Donc, j'arrive jamais à bien dire le titre de la SAGEF. Mm-hmm. C'est la Société des anglicistes pour l'étude des sexes, femmes et genres. Mm-hmm. Donc, c'est une société savante qui est sous la SAES, qui est la Société des anglicistes dans l'enseignement supérieur. Et en fait, notre association a été lancée vers 2010, 11, 12, 12, 12. Et on se pose la question de la SAGEF. On s'appelle la SAGEF, mais peut-être cet acronyme n'est plus très pertinent aujourd'hui. Donc, on est en train de réfléchir à un rebranding. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que dans une société savante, on travaille sans réseau. Donc, on se connaît. Tamara fait partie du bureau de SAGEF comme moi-même et j'ai écouté Tamara au congrès de la SAES l'année dernière et sa communication m'a beaucoup interpellée parce qu'elle travaille entre autres et aujourd'hui sur les welfare moms et c'est un sujet que bah, je connais un petit peu mais son approche m'a vraiment intéressée. Je voulais l'inviter pour communiquer pour vous sur ce même thème. Donc je vais vous faire une introduction officielle. Tamara Boussac est maîtresse de conférence en études nord-américaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et pour son équipe de recherche, elle est membre du Centre d'études nord-américaines de l'UMR Monde américain. Elle est l'autrice de l'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain, qui est sorti en 2023 aux presses de Sciences Po. C'est un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat portant sur la construction d'un discours et d'un mode d'action conservateur sur la pauvreté et les aides sociales au milieu du XXe siècle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais essayer de la commander pour notre bibliothèque. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que Tamara travaille actuellement la traduction parce qu'elle a écrit en français. Là, elle va préparer une version qui peut être publiée en anglais et elle est sous contrat avec SUNY ou State University of New York Press. Donc voilà, Tamara, on est très contente de te compter parmi nous aujourd'hui et pour nous parler de ce sujet que tu as trouvé lors de la préparation de ta thèse.
Oui, tout à fait. Donc le livre dont tu as parlé, Amy, est une adaptation de ma thèse que j'ai faite et soutenue en 2020. Merci. Bah, merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à Amy Wells pour son invitation aujourd'hui. Effectivement, qui fait suite à une discussion que nous avons déjà eue il y a à peu près un an, donc au congrès de la SAES, où nous co-organisions et on parlait toutes les deux à un panel où j'ai pu évoquer voilà, les questions de genre, de pauvreté, de politique sociale aux États-Unis, la question d'un droit de la pauvreté également. Et Amy, effectivement, m'a invitée à venir en parler de manière un peu plus longue. Et donc, je suis très contente de le faire. Et donc, effectivement, le premier titre de ma communication, c'est « Le genre de la pauvreté », parce que, de fait, la question du genre est assez centrale dans l'historiographie de la pauvreté et de l'État-providence aux États-Unis, puisque beaucoup d'historiens et d'historiennes, en fait, qui ont travaillé sur cette question et sur le XXe siècle, se sont beaucoup intéressés à l'histoire des femmes, et notamment dans une perspective intersectionnelle dans les années 90 et 2000, de nombreux travaux ont bien montré comment les politiques de lutte contre la pauvreté ont astreint les femmes, et notamment les femmes noires, à un statut de dépendance économique, au travers d'aides notamment inadéquates, aux montants insuffisants, et en réalité destinées à contraindre les femmes à se marier. Et donc, au cours du XXe siècle, les politiques à destination des femmes pauvres ont oscillé entre ce que j'appelle ce que plusieurs personnes appellent une injonction maternaliste et une forme de criminalisation. Mais ces politiques sociales deviennent aussi un vrai terrain de contestation politique, notamment dans le contexte des années 1960 et d'un mouvement social qu'on appelle le Welfare Rights Movement, dont je parlerai à la fin de cette présentation. Et donc ici, j'aimerais retracer comment les mutations de ces politiques de lutte contre la pauvreté féminine ont eu des objectifs parfois contradictoires, genre et montrer comment les catégories de genre et de race ont été mobilisées par plusieurs acteurs, donc des administrateurs, des élus, des militantes, également des chercheurs, des chercheuses, à des fins tantôt de contrôle et de restriction de l'aide sociale et à l'inverse, tantôt d'émancipation politique. Donc dans un premier temps, je reviendrai sur les origines de la politique sociale à destination des femmes aux États-Unis, en revenant sur quelques concepts clés et sur des éléments d'historiographie. Ensuite, je m'attarderai sur les transformations de ce qu'on appelle le welfare, ou les programmes d'assistance sociale après la Seconde Guerre mondiale, et notamment voilà, le tournant punitif et la criminalisation de la pauvreté après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, je m'attarderai sur les femmes comme actrices et contestatrices de la politique sociale, notamment voilà, en retraçant la généalogie du Welfare Rights Movement dans la deuxième moitié des années 1960. Alors, quand on s'intéresse à l'État-providence aux États-Unis, il faut en général remonter aux années 1930, en réalité même remonter aux années 1910, puisque dans les années 1910, plusieurs États mettent en place des allocations à destination des femmes spécifiquement, en réalité à destination des mères veuves, et donc des programmes nommés « Mother's Pensions », donc l'idée voilà, d'une allocation spécifique pour les mères. Et dans les années 1930, on voit un nouvel élan de réforme dans ce sens qui émerge dans le contexte de la crise économique après la crise de 1929 et dans un contexte social très tendu, évidemment, marqué par une explosion de la pauvreté aux États-Unis, une pauvreté qui a été bien documentée à l'époque par les photographes de la Farm Security Administration, notamment par les images d'une photographe nommée Dorothy Lange et qui documente le fait que de nombreuses femmes dans le sud des États-Unis sont victimes spécifiquement de la précarité induite par la crise des années 30. Une de ces images, par exemple, c'est celle-ci, c'est celle qui figure sur l'affiche de l'événement, et donc qui date de 1939, prise par le photographe Russell Lee, et qui s'intitule « Women on Relief with Child ».« Relief », c'est le terme qui est utilisé au début du XXe siècle pour parler de ce qu'on nommera par la suite « welfare », donc c'est l'idée de l'aide sociale, de l'allocation pour les démunis. Et notamment pendant le New Deal donc de l'administration démocrate du président Franklin Roosevelt, plusieurs programmes sociaux sont créés justement pour répondre à la catastrophe sociale que fut la crise économique. Et en général, on associe la naissance de l'État-providence américain, au Social Security Act de 1935, qui en fait pose les fondements d'un État-providence à l'américaine et à l'échelle fédérale. Et donc selon cette loi, donc le Social Security Act, l'État-providence américain est partagé entre deux volets, d'une part un volet assurantiel et d'autre part un volet d'assistance sociale. C'est-à-dire que d'une part, on a une série de programmes qui sont des programmes d'assurance qui sont assis sur le principe de la cotisation. Donc on cotise et puis à la fin, ça ouvre à des droits, typiquement tout ce qui concerne les allocations chômage ou le programme fédéral de retraite créé à ce moment-là. Et d'autre part, on trouve des programmes d'assistance sociale, c'est-à-dire des allocations qui sont attribuées sous conditions de ressources, en fait, à des catégories très spécifiques de la population. Et donc, qui sont destinées à lutter contre la grande précarité. Donc, par exemple, il va y avoir un programme pour les personnes âgées, par exemple. Voilà, les personnes âgées, afin que celles-ci ne tombent pas dans l'indigence. Il va y avoir également un programme spécifique pour les aveugles. En 1950, sera ensuite créé un programme spécifique pour les personnes handicapées. Et parmi ces programmes d'assistance sociale, on trouve le programme Aid to Dependent Children, ou ADC, créé en 1935. En 1962, il sera renommé Aid to Families with Dependent Children. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un programme qui est perçu au titre des enfants et qui est en fait attribué à des femmes seules avec enfants à charge et qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc, à ce titre, ce n'est pas exactement l'équivalent du système d'allocation familiale tel qu'on peut le connaître en France, par exemple, qui est un programme universel et qui n'a pas d'équivalent dans le contexte américain, puisque là, on ne parle pas d'un programme universel, mais un programme qui est accordé selon les revenus et spécifiquement aux familles monoparentales. Dans les années 1990, plusieurs historiennes féministes ont souligné que le programme ADC incarnait ce qu'elles appellent une injonction maternaliste, c'est-à-dire une logique selon laquelle l'allocation était conditionnée par le statut de mère en foyer, tout en étant en réalité inadéquate. En effet, les montants des allocations étaient peu élevés et en réalité ne pouvaient en aucun cas faire office de revenus de substitution. Donc parmi les historiennes en question, voilà, il y a plusieurs livres publiés entre 1994 et 1995 qui sont des références intéressantes. L'ouvrage de Linda Gordon, Pitied but Not Entitled, Single Mothers and a History of Welfare, Gwendolyn Mink, The Wages of Motherhood, Inequality in the Welfare State, et Mimi Abramovitz, Regulating the Lives of Women, Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present. Et donc il faut rappeler aussi que les programmes créés pendant New Deal dans les années 1930 répondent tous au modèle dit du chef de famille, ou en anglais, l'expression qui est utilisée, c'est le breadwinner model, selon lequel les politiques sociales ont vocation à renforcer les familles nucléaires et des familles centrées autour d'un chef de famille masculin et qui servirait de pilier économique de la famille grâce à son salaire. Et donc, les historiennes que j'ai citées ont montré que le but du système social créé en 1935 n'était pas de permettre aux femmes de devenir indépendante financièrement, économiquement, mais au contraire de conforter leur statut de dépendante économique, donc dépendante soit de leur mari et du salaire du mari, soit de l'État, et ce, sans en réalité les sortir de la pauvreté au cas où elles percevraient donc l'allocation ADC. Et donc, en somme, la sécurité économique pour les femmes ne devrait être atteinte que par le mariage et la famille. Le fait est que, alors ça c'est effectivement les origines de l'État-providence américain, et le fait est que voilà, ce système d'assistance sociale connaît plusieurs transformations après la Seconde Guerre mondiale, et notamment connaît un tournant punitif et une forme de criminalisation de ses bénéficiaires, puisque l'après-guerre notamment est caractérisée par plusieurs transformations sociales et démographiques qui vont contribuer en réalité à l'impopularité du programme Aid to Dependent Children que j'ai cité tout à l'heure. Le premier élément qui va contribuer à l'impopularité de ce programme à destination des femmes seules, ça va être tout d'abord le fait que pour les concepteurs du programme dans les années 30, à l'origine, le programme était censé être temporaire. Voilà, c'était censé être une réponse temporaire à la crise économique de 1929. En réalité, après 1945, ce qu'on se rend compte, c'est que le programme en fait n'est pas temporaire, il est pérenne et en réalité, il compte même de plus en plus de bénéficiaires dans le pays. Alors même que les années 50 pour les États-Unis sont une période de prospérité économique extrêmement florissante et sans précédent, et si bien que pour de nombreux élus et de nombreux chercheurs en sciences sociales, la pauvreté est une forme d'anomalie dans l'ère de l'opulence que connaît les États-Unis dans les années 50. Par exemple, à New York, moi j'ai beaucoup travaillé sur le terrain new-yorkais, donc j'ai beaucoup d'exemples qui viennent de New York. Le nombre de bénéficiaires de l'allocation ADC passe de 68 000 en 1945 à plus de 223 000 10 ans plus tard. Au début des années 1960, le programme ADC compte à peu près 3 millions de bénéficiaires dans l'ensemble du pays. 10 ans plus tard, ce chiffre a doublé. Donc effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui vont toucher ce programme. Ensuite, les bénéficiaires changent dans le sens où, à nouveau, dans l'esprit des concepteurs du programme dans les années 1930, ce programme était à destination de femmes veuves avec enfants à charge et aussi de femmes pensées comme étant principalement blanches. Or, plusieurs études statistiques dans les années 1950 vont montrer que les femmes noires touchent de plus en plus le programme ADC et que ce sont des femmes qui n'ont parfois jamais été mariées avec leur conjoint ou alors qui en sont séparées, qui en sont divorcées. Par exemple, une étude statistique de l'État de New York de 1957 révèle que 46% des familles qui touchent ADC dans l'État sont des familles noires et que 96% d'entre elles sont des familles monoparentales parce que le père est absent du foyer. Et en fait, ces transformations vont également transformer la manière dont l'assistance sociale est désignée dans les discours publics. Notamment, les historiens, l'historien et l'historienne Michael Katz et Lauren Thomas, dans un article intitulé « The Invention of Welfare in America », ont remarqué une transformation des discours et des perceptions publiques sur ce qui devient de plus en plus désigné par le thème de « welfare », par le terme de « welfare », et qui, en fait, devient un terme qui devient vraiment synonyme du programme ADC dans les années 1960, et le terme « welfare » en lui-même prend également une connotation de plus en plus péjorative, en fait, dans le discours et dans la langue quotidienne, pour désigner un programme qui serait mal géré, qui serait attribué à des femmes noires qui ne le mériteraient pas. Et en effet, pour de nombreux élus, hein, dans les années 1950 et 1960, Aid to Dependent Children encouragerait des comportements sociaux nuisibles à l'éthique du travail, nuisibles aussi aux valeurs familiales de la classe moyenne américaine, puisque de nombreux élus et administrateurs soupçonnent que les femmes noires feraient de plus en plus d'enfants hors mariage pour toucher de, voilà, toujours plus d'allocations plutôt que de se marier ou que de travailler. Certains ont peut-être déjà entendu parler du stéréotype péjoratif de la « welfare queen » aux États-Unis. Et en fait, c'est le stéréotype qui émerge à peu près à cette époque. Le terme lui-même de « welfare queen » date plutôt des années 1970, mais dans les discours publics de l'époque, on voit effectivement ce stéréotype émerger, c'est-à-dire les « welfare queens », les reines de l'assistance sociale. C'est une expression qui, en fait, désigne des fraudeuses en série. En fait, c'est une image qui est très racialisée dans l'imaginaire collectif de l'époque, donc des femmes noires qui, voilà, qui profiteraient, abuseraient du système d'allocation. Et donc, à partir des années 1960, de nombreuses réformes visent à réduire l'éligibilité au programme en durcissant les règles, par exemple en instaurant des mesures de travail obligatoires en contrepartie d'une aide sociale, dans le but de rendre les modalités d'attribution dissuasives. Et donc, pour retracer cette histoire, de fait, on observe un vrai tournant intersectionnel dans l'historiographie aussi des années 1990, des années 2000, puisque de nombreux historiens et historiennes montrent à cette époque que les femmes qui sont visées par les attaques et par les réformes sont des femmes noires, et donc il est nécessaire de mobiliser les catégories de genre, mais aussi de race, pour comprendre l'histoire de la criminalisation de la pauvreté aux États-Unis. C'est le cas par exemple. C'est le cas, par exemple, voilà, de deux références de l'historienne Ellen Rees, donc dans son livre « Backlash Against Welfare Mothers, Past and Present », ou par exemple Martin Gillens dans son ouvrage « Why Americans Hate Welfare », où il insiste sur le rôle de la presse, sur le rôle des médias dans la production et la diffusion d'images de femmes noires avec plusieurs enfants et qui auraient contribué, voilà, à façonner la mauvaise réputation du programme ADC. C'est aussi quelque chose, alors comme l'a souligné Amy, c'est aussi quelque chose que j'évoque moi dans l'ouvrage que j'ai publié il y a quelques mois aux presses de Sciences Po, qui s'appelle « L'affaire de Newburgh », qui s'intéresse en fait à une controverse qui a eu lieu au début des années 60 dans l'État de New York et qui a vraiment mis en forme le débat public sur la pauvreté et sur l'aide sociale aux États-Unis à cette époque-là, et notamment a contribué à l'émergence du stéréotype de la « welfare queen » dans l'imaginaire collectif et politique américain. Donc une question importante, en fait, hein, qui va traverser les années 1950-1960, c'est d'expliquer la persistance de la pauvreté dans une époque de prospérité économique. Et le fait est que, voilà, de nombreux sociologues et administrateurs vont avancer ce qu'on appelle une explication culturaliste de la pauvreté, et notamment de la pauvreté au sein des familles noires. Et voilà, plusieurs productions vont insister sur l'idée d'une désorganisation au sein des familles noires et l'idée d'un matriarcat africain-américain qui serait dysfonctionnel et qui contribuerait à une culture de la pauvreté. Donc, le terme de matriarcat, je l'utilise avec des guillemets, à l'oral c'est pas évident, mais le fait est que c'est un terme qui est très largement utilisé à l'époque, dans les années 50, dans les années 60, pour qualifier, pour décrire les familles noires. Voilà, matriarchal family, c'est vraiment, voilà, un terme qui est utilisé. Et effectivement, l'idée de cette explication culturaliste serait que depuis la période de l'esclavage, effectivement, il y aurait une culture au sein des familles noires d'absence des pères, effectivement, et de centralité de la figure maternelle dans les structures familiales africaines-américaines. C'est quelque chose notamment voilà, qu'on trouve dans plusieurs discours sociologiques dès les années 1930. Dans le contexte politique de l'État de New York dans les années 1950, c'est aussi quelque chose qui va être mis en avant dans un projet politique du gouverneur de New York au milieu des années 1950, d'une guerre contre la pauvreté, c'est-à-dire en fait une espèce de vague étude statistique pour un peu déceler les origines de la pauvreté dans l'État de New York. Et donc c'est ce projet d'étude statistique qui va fournir plusieurs explications et les chiffres que j'ai évoqués plus tôt, hein, que par exemple 96% des familles noires qui touchent ADC dans l'État étaient des familles monoparentales. Par exemple, si on s'intéresse à des citations de ce rapport, voilà, de cette série de rapports fournis à la fin des années 1950, une première cause du recours à l'aide sociale pour les familles noires serait, je cite, la désertion paternelle et, à nouveau, je cite, la faiblesse des liens familiaux qui régneraient au sein des familles noires et qui expliquerait pourquoi, je cite, le père est absent et pourquoi il ne contribue pas aux finances de la famille. Donc, dans un sens, effectivement, on a une explication de la pauvreté par une forme d'incompétence parentale, soi-disant, hein, au sein des familles africaines-américaines et d'une forme d'immaturité émotionnelle aussi chez les mères noires. Et au-delà des explications culturelles et familiales, l'idée s'impose aussi progressivement, voilà, dans les discours politiques, que le nombre de bénéficiaires du programme ADC augmente aussi à cause de l'augmentation du nombre d'abus et de fraudes. Et donc dans un sens que des femmes percevraient le programme Aid to Dependent Children en trichant et sans y être réellement éligibles. Par exemple, à New York en 1958, un grand jury chargé d'enquêter sur la fraude sociale met explicitement en avant la question des femmes noires en ces termes. Donc je cite, c'est une citation que j'ai trouvée dans un article du New York Times donc, sur cette enquête contre la fraude sociale. Ce grand jury donc dit « Notre inquiétude est profonde vis-à-vis de celles qui font enfant illégitime après enfant illégitime et qui continuent à vivre leur vie de péché. » Elles savent pertinemment que l'administration ne leur coupera pas leurs aides. Au contraire, à chaque nouvelle naissance hors mariage, les allocations augmentent. Et donc là, on voit effectivement le vocabulaire très moralisateur, en fait, hein, qui est derrière ça, avec l'allocation ADC qui serait une forme de prime à l'immoralité et aux relations sexuelles hors mariage. En 1965, et ça c'est une référence assez importante, un document controversé va parachever la prééminence de l'explication culturaliste de la pauvreté et du stéréotype du matriarcat noir dysfonctionnel. En fait, il s'agit de ce qu'on surnomme le rapport Moynihan, donc nommé ainsi d'après son auteur, Daniel Patrick Moynihan, qui en 1965 est un administrateur qui travaille au ministère du Travail fédéral, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il rédige cette enquête. Et en fait, c'est une figure très influente de la vie politique américaine de la fin du XXe siècle, notamment puisqu'à la fin des années 1970, il est élu sénateur de l'État de New York. Il reste élu au Sénat pendant plusieurs décennies. Et le titre officiel de son rapport de 1965, c'est « The Negro Family, the Case for National Action ». Et dans ce rapport, en fait, à grand renfort de statistiques, Moynihan établit que, soi-disant, hein, les familles noires seraient prisonnières de ce qu'il appelle un enchevêtrement pathologique. Donc, l'expression en anglais qu'il utilise, c'est « tangle of pathology ». Donc un enchevêtrement pathologique dont la dépendance aux aides sociales et le nombre croissant de bénéficiaires du programme ADC seraient les symptômes. Et donc, à nouveau, il met en forme l'idée selon laquelle la cause principale de la pauvreté noire serait la prééminence de la famille dite matriarcale où les hommes seraient absents et où refuseraient d'assumer leur rôle de chef de famille. Et en fait, voilà, la conclusion de Moynihan dans son rapport, c'est en fait, il appelle à la création d'un vaste programme d'emploi public à destination des hommes noirs pour justement renforcer le rôle économique des hommes noirs au sein de leur propre famille et dans un sens afin de renforcer le modèle du breadwinner au sein des familles noires. À partir des années 1970, de fait, hein, ces analyses culturalistes laissent plus clairement place au stéréotype des welfare queens que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment dans les discours de Ronald Reagan, qui est à partir de 1966 gouverneur de Californie avant de devenir président des États-Unis dans les années 1980. Et de fait, Reagan fait vraiment de la fraude sociale et de la fraude sociale soi-disant commise par les femmes noires un élément central de sa marque politique. Hein, et c'est vraiment quelque chose qu'il va beaucoup utiliser dans ses discours de campagne, notamment en 1976, dans un discours de campagne lors de sa réélection. Il fustige notamment l'exemple d'une femme noire nommée Linda Taylor, qu'on voit donc sur la photo de gauche ici, qui est une personne qui a été en fait condamnée à Chicago pour fraude sociale. Et en fait, Reagan va vraiment utiliser cet exemple pour en fait exagérer la nature de la fraude et surtout présenter ce cas individuel comme représentatif d'une fraude généralisée au sein du système de protection sociale et notamment par les femmes noires. Et alors c'est une citation qu'on trouve assez facilement, qui est restée assez mémorable. Il a notamment dit d'elle que « She used 80 names, 30 addresses, 15 telephone numbers to collect food stamps, social security, veterans benefits for 4 non-existent deceased veteran husbands, as well as welfare. » Et donc l'idée qu'effectivement qu'il y a une sorte de stratégie de fraude mise en place très réfléchie pour toucher tout un tas de programmes sociaux à l'époque. Et donc c'est dans ce contexte effectivement que dès les années 50 et surtout à partir des années 1960, de nombreux élus dans les États, enfin, à l'échelle des États en fait, hein, vont mettre en place de nouvelles règles et de nouveaux dispositifs pour exclure de plus en plus ces femmes de l'assistance sociale. Notamment, alors c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, les femmes noires sont notamment soupçonnées, alors déjà de multiplier les naissances hors mariage pour toucher toujours plus d'allocations, mais aussi en fait de mettre en scène leur célibat tout en continuant de cohabiter avec un homme qui en fait n'aurait pas déserté le foyer. Et donc en fait, l'argument, c'est qu'elles feraient croire à l'administration sociale qu'elles sont mères isolées pour pouvoir toucher le programme ADC qui n'est ouvert qu'aux femmes seules, alors qu'en réalité, elles vivraient en cohabitation avec un homme qui contribuerait financièrement au foyer. Et donc pour lutter contre cela, en fait, qui est un stéréotype qui tient assez largement de l'imaginaire et du fantasme, un dispositif qui va être très appliqué, ce sont les règles dites sur la présence d'un homme au sein des foyers, « men in the house rules » en anglais, dont le principe est que si un homme est pris sur le fait, voilà, en train de cohabiter ou d'entretenir une relation avec une femme bénéficiaire d'ADC sans qu'il ne soit marié, les femmes ne sont plus éligibles à l'aide sociale parce que les administrateurs sociaux considèrent que le couple devrait se marier et que l'homme devrait prendre en charge les finances du foyer et que ce n'est plus à l'État de subventionner en fait la famille en question. Et pour mettre en œuvre cette règle, il y a un dispositif particulièrement qui est utilisé par les travailleurs sociaux et les administrations sociales, un dispositif qui en fait sont des visites de nuit, en anglais voilà, l'expression c'est midnight raids, donc des visites de nuit chez les femmes non annoncées au préalable afin de prendre ces femmes et ces hommes sur le fait. Donc moi dans mes sources que j'ai consultées pendant mes recherches, j'ai vu par exemple, que, voilà, que ça impliquait de fouiller les appartements, d'inspecter les paniers à linge, de vérifier les armoires, les cendriers, de regarder dans la salle de bain pour voir s'il n'y avait pas un rasoir. En gros, une forme d'enquête pour déterminer si, oui ou non, un homme vit dans le foyer en question. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une pratique qui est très largement répandue à partir des années 60, et pas seulement dans les États du Sud, dans les États ségrégationnistes ou conservateurs du Sud, mais également dans le Nord libéral des États-Unis, et notamment à partir de 1959, ça devient une préconisation explicite de la mairie de New York, alors que le maire de New York est un démocrate a priori progressiste à l'époque. Néanmoins, voilà, le stéréotype des femmes profiteuses et de la nécessité, l'idée d'une nécessité de lutter contre ces abus, est très, voilà, est vraiment répandue au sein de la classe politique, au-delà des clivages idéologiques. J'ai même vu, alors j'ai pas d'éléments pour l'étayer, mais j'ai vu dans une correspondance administrative aussi, par exemple, un directeur de l'administration de la sécurité sociale de Washington DC, qui en 1962 écrit que ses collègues procéderaient même à des filatures ou imposeraient des tests de grossesse aux femmes bénéficiaires d'ADC pour vérifier si oui ou non elles ont des relations sexuelles avec des hommes, alors même qu'elles touchent le programme ADC. Donc évidemment, on parle de dispositifs qui sont extrêmement intrusifs, hein, et qui sont a priori illégaux, en tout cas contraires au principe de droit à la vie privée qui est garanti par la Constitution des États-Unis. Et donc c'est ce qui mène en fait à ma troisième partie, hein, qui est que justement tous ces dispositifs vont mener à une mobilisation des femmes noires elles-mêmes, et notamment au sein d'un mouvement social qu'on appelle le Welfare Rights Movement, donc un mouvement pour les welfare rights. En fait c'est un mouvement qui est une émanation du mouvement pour les droits civiques dans la seconde moitié des années 1960, et qui en fait est principalement implanté dans le nord des États-Unis, notamment à New York. Et en fait, il s'agit vraiment d'un mouvement social incarné par des femmes noires, elles-mêmes bénéficiaires de l'allocation ADC, et qui vont militer pour un double objectif, donc un double objectif de justice sociale. D'une part, faire reconnaître l'idée d'un droit à l'assistance sociale, un droit économique qui serait en fait inhérent à la citoyenneté américaine, et d'autre part, dans le but de faire davantage respecter leurs droits constitutionnels et d'être mieux protégés contre les pratiques abusives que je viens de décrire. Alors, avant que ce mouvement social n'apparaisse effectivement plus largement dans la société, en fait, il y a des juristes et des théoriciens, des théoriciennes qui se sont en fait attachés au début des années 1960 a démontré que les pratiques de pénalisation, les dispositifs de contrôle que j'ai décrits, en fait, contreviennent aux droits constitutionnels des femmes bénéficiaires, et en particulier au droit à la vie privée et au principe d'égalité devant la loi des citoyens. Et donc, pour plusieurs juristes et théoriciens, il s'agit de théoriser une forme de droit de la pauvreté. Et l'une des principales théoriciennes de ce droit de la pauvreté pour défendre les femmes noires, c'est cette personne qui s'appelle Elizabeth Wickenden, qui en fait est une personnalité issue de l'administration fédérale. En fait, dans les années 1930, elle travaille dans plusieurs agences du New Deal. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience administrative. Dans les années 1950, elle travaille comme lobbyiste dans une association qui s'appelle l'American Public Welfare Association. Et en fait, c'est vraiment une experte des politiques sociales et de la pauvreté. Elle est régulièrement consultée par l'administration Kennedy, par exemple, pour son expertise sur ces sujets, voilà, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de très influent, et en fait de pionnier aussi dans ce qu'on appelle effectivement les welfare rights. Et effectivement, c'est l'une des premières à s'intéresser à la question des droits, et notamment à propos des règles « men in the house », elle va dénoncer, je cite, une humiliation publique pour les femmes, elle va mettre en garde contre les pratiques abusives. En 1963, elle va rédiger un rapport qui s'appelle « Poverty and the Law, the Constitutional Rights of Assistance Recipients », dans lequel, en fait, voilà, elle démontre que la classe sociale serait une source de discrimination au même titre que la couleur de peau, puisque les pauvres ne bénéficieraient pas de la clause de protection égale devant la loi garantie en théorie par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Et donc, en fait, elle encourage les avocats à, je cite, « garantir la protection de la Constitution pour tous les groupes sociaux », et notamment en aidant les femmes en question à faire appel en cas, voilà, si jamais les aides sociales, leurs aides sociales étaient coupées en raison des dispositifs que j'ai décrits tout à l'heure, et aussi à les représenter dans des cours de justice. Il y a une deuxième personne importante dans ce domaine qui est quelqu'un qui s'appelle Charles Reich et qui en fait est un professeur de droit à l'université de Yale. Et en 1962, il publie un article qui s'appelle « Midnight Welfare Searches and the Social Security Act », qui est donc consacrée aux visites aux descentes de nuit. Et en fait, voilà, dans cet article, il démontre que cette méthode d'inspection contrevient au 4e et au 14e amendement de la Constitution, qui, voilà, respectivement, protègent les citoyens contre les procédures arbitraires et garantissent l'égalité des citoyens devant la loi. Et donc, sa conclusion, c'est de dire que malgré l'illégalité, l'inconstitutionnalité de toutes ces pratiques, le problème, c'est bien que les pauvres, les femmes pauvres qui touchent les allocations et qui sont victimes de ce genre de dispositif, en fait, ne disposent pas des ressources juridiques, financières, pour pouvoir se défendre contre ce genre d'attaque. Et dans les années 1960, c'est un problème qui va être vraiment pris au sérieux par l'État fédéral, hein, puisque l'État fédéral des États-Unis va notamment mettre à disposition des ressources juridiques pour les bénéficiaires de l'aide sociale. Et c'est aussi, voilà, une période où on assiste à une mobilisation des femmes noires elles-mêmes, qui militent donc au sein du Welfare Rights Movement pour faire reconnaître juridiquement leurs droits. Donc c'est un mouvement social qui a cela d'intéressant qu'il met en avant les femmes noires comme actrices politiques et sociales à une époque où, en fait, paradoxalement, les catégories de genre et de race sont très largement des impensées, en fait, dans le discours public, dans le sens où, par exemple, voilà, Elizabeth Wickenden ou Charles Reich, ils parlent des pauvres, hein, ils écrivent sur la question du droit de la pauvreté et sur les discriminations dont les pauvres font l'objet, mais à aucun moment ils ne théorisent spécifiquement les femmes noires comme une catégorie spécifique ni comme une classe de citoyennes particulièrement vulnérable. Et donc, dans un sens, le Welfare Rights Movement révèle cette impensée et donne une visibilité, une agentivité aux femmes noires pauvres. Donc effectivement, c'est un mouvement principalement basé à New York, incarné par des femmes africaines-américaines bénéficiaires d'ADC, par exemple Johnny Tillman, qu'on voit à gauche ici, qui en fait est une mère de 6 enfants. Elle touche le programme ADC à partir de 1963, après avoir perdu son emploi dans une laverie à cause d'une maladie. Et en fait, c'est une des cofondatrices de l'organisation nationale qui chapeaute et coordonne le mouvement pour les welfare rights, et qui s'appelle la National Welfare Rights Organization, ou encore Beulah Sanders, qu'on voit donc là représentée dans un article du New York Times Magazine en 1970, qui elle, voilà, a un parcours militant et qui notamment, voilà, est une community organizer, donc une sorte de militante de quartier qui est aussi impliquée dans le mouvement pour les droits civiques et qui va prendre part au Welfare Rights Movement. Et donc, en fait, c'est un mouvement qui organise de nombreuses manifestations, en fait, de manifestations pour les droits sociaux à partir de 1966, 1967, 68 surtout. Par exemple, voilà, elle manifeste devant la mairie de New York, elles prennent à partie le maire de New York de l'époque, justement, pour une meilleure défense de leurs droits. Elles manifestent aussi contre les descentes de nuit des travailleurs sociaux que j'ai cités. Elles protestent contre les aides insuffisantes, souvent versées en retard. Elles organisent aussi à New York notamment un boycott des écoles publiques pour contester les maigres ressources, en fait, que les écoles publiques recevraient par rapport aux écoles privées. Et certaines ont aussi, notamment à New York, mené une campagne de rétention des loyers afin de demander que l'État garantisse l'accès à un logement et protège les locataires contre les loyers demandés parfois exorbitants, demandés par les propriétaires. Donc c'est vraiment un mouvement qui s'intéresse à une diversité de droits sociaux, donc effectivement la question des allocations, mais aussi liée à l'éducation et au logement. Et alors, peut-être certains ont en tête le fait que en 1968, Martin Luther King organise une grande manifestation à Washington qui s'appelle la Poor People's Campaign, la marche pour les pauvres. Et effectivement, il y a de nombreuses femmes du Welfare Rights Movement qui prennent part à cette manifestation de 1968 à Washington, notamment, voilà, en arborant des slogans du type Mother Power, voilà, qui est une sorte de récupération du slogan Black Power, mais pour effectivement à affirmer, voilà, une forme d'empowerment des femmes noires touchant les programmes d'assistance sociale.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a énormément d'historiennes en fait qui se sont intéressées à l'histoire du Welfare Rights Movement. Donc il y a beaucoup de références, si jamais ça vous intéresse, pour aller voir éventuellement plus loin. Donc notamment voilà l'ouvrage de Pramila Nadesan qui s'appelle Welfare Warriors: The Welfare Rights Movement in the United States. Et donc la photo de couverture, c'est une photo de Johnny Tillman que j'ai montré juste avant. L'ouvrage aussi de Annalise Orlek, Storming Caesar's Palace, How Black Mothers Fought Their Own War on Poverty. On a aussi l'ouvrage de Phylicia Cornblue qui s'appelle The Battle for Welfare Rights, Politics and Poverty in Modern America. Un autre ouvrage vraiment très bon que je conseille, c'est celui de Lisa Levenstein qui s'appelle A Movement Without Marches, African American Women and the Politics of Poverty in Postwar Philadelphia. C'est à la fois une histoire sociale et politique et aussi une histoire urbaine, donc voilà, qui est vraiment très centrée sur Philadelphie, et c'est très intéressant. Et enfin, voilà, un autre exemple, un ouvrage de Ellen Reese que j'ai déjà cité plus tôt, donc un ouvrage qui s'appelle They Say Cut Back, We Say Fight Back. Welfare Activism in an Era of Retrenchment. Et donc, voilà, ce sont des ouvrages qui offrent une, disons, une lecture par le bas, une lecture un peu plus grassroots de l'histoire sociale de l'État-providence américain au XXe siècle en s'intéressant, voilà, à la trajectoire de ces militantes. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que il y a eu plusieurs avancées juridiques en fait hein, qui ont découlé de cet activisme, puisque les militantes ont notamment réussi à faire reconnaître une série de droits constitutionnels, notamment voilà, un meilleur respect de leur vie privée, sans toutefois parvenir à faire reconnaître l'existence d'un droit aux assistances, à l'assistance sociale et un droit aux allocations aux États-Unis. Un exemple hein, voilà, d'avancée juridique ou jurisprudentielle, c'est en 1968, la Cour suprême des États-Unis rend un arrêt qui s'appelle King versus Smith, où en fait voilà, les règles sur la présence d'hommes au sein des foyers, les Man in the House Rules, vont être jugées inconstitutionnelles. La Cour suprême va décider que les allocations d'assistance sociale ne peuvent pas être suspendues en raison de relations qu'entretiendraient les femmes bénéficiaires avec des hommes en dehors du mariage. Donc ça, effectivement, c'est une première avancée pour une meilleure, voilà, un meilleur respect de la vie privée des bénéficiaires. Ensuite, en 1970, la Cour suprême rend un deuxième arrêt qui s'appelle Goldberg versus Kelly et qui, en fait, vise à protéger les femmes bénéficiaires des radiations administratives arbitraires. Et en fait, la Cour suprême reconnaît un droit à une audience équitable, a fair hearing, donc une audience préalable à toute radiation administrative, afin que les femmes puissent plaider leur cause en présence d'un avocat, parce qu'avant ça, effectivement, la décision de radier ou non quelqu'un des rangs de l'assistance sociale était parfaitement discrétionnaire, laissée à la discrétion des administrations et des travailleurs sociaux, et les femmes n'avaient pas forcément l'occasion de plaider leur cause et d'entrer dans un débat contradictoire. Donc, l'arrêt Goldberg versus Kelly, dans un sens, remédie à ce problème. Et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose dont vont se saisir de nombreuses femmes bénéficiaires du programme, puisque voilà, le nombre d'audiences augmente dans les années 1960 et la contestation administrative devient une pratique régulièrement utilisée par les allocataires. Et donc, de fait, c'est important de parler du Welfare Rights Movement, et d'autant plus que c'est un mouvement qui a fait l'objet de nombreux travaux depuis une vingtaine d'années, comme je l'ai dit. Mais le fait est que son succès a en fait été de courte durée, puisqu'en réalité, la logique punitive au sein des politiques sociales s'accentue à partir des années 1970, notamment au cours des réformes successives du système de protection sociale, notamment voilà, dans les années 1980, pendant la présidence de Ronald Reagan. Le programme ADC, qui désormais s'appelle AFDC, subit d'importantes coupes budgétaires. Et surtout, ce qu'il faut surtout avoir en tête aussi, c'est une réforme de l'administration Clinton de 1996. C'est l'un des grands projets de politique intérieure de Bill Clinton que de réformer le système de protection sociale. L'un de ses slogans de campagne que peut-être certains ont en tête, c'est « To end welfare as we know it ». Et voilà, c'est un peu, on est tout à fait dans ce contexte-là. Et en fait, en 1996, l'administration Clinton abolit le programme ADC, qui aujourd'hui n'existe plus, et en fait le remplace par un nouveau programme dont le nom est Temporary Aid for Needy Families. Et donc, comme son nom l'indique, voilà, c'est un programme qui est temporaire. Donc effectivement, c'est limité à 5 ans. Donc dans votre vie, vous n'avez droit à toucher à ce programme que 5 ans en cumulé. Les bénéficiaires ensuite sont contraints à travailler en contrepartie des aides sociales ou alors à suivre des formations professionnelles. Et de fait, les étrangers ne sont plus éligibles au programme. Voilà. Donc il y a une forme de repli national aussi. Et en fait, c'est une étape vraiment décisive dans l'histoire des politiques sociales américaines. Hein, la réforme de 1980. De Bill Clinton, c'est les ouvrages dont j'ai parlé, les historiennes voilà, qui sont intéressées à l'histoire du welfare en général, les histoires, la chronologie débute en 1935 et termine en 1996 parce qu'on voilà, on considère que c'est un petit peu la fin de cette histoire et que depuis, on est dans un régime de précarité beaucoup plus important et très différent en termes chronologiques de ce qui était fait auparavant. Et donc, voilà, pour terminer, en guise de conclusion, j'aimerais insister sur l'importance des catégories de genre et de race pour les acteurs contemporains de la période qui m'intéresse, mais aussi sur la malléabilité, en fait, de leur utilisation politique, dans le sens où on voit bien, à travers tous les exemples que j'ai donnés, que pour la droite, pas que pour la droite, mais bon, disons pour les conservateurs, pour les partisans d'une restriction de l'aide sociale, présenter les pauvres comme des femmes noires dans les discours publics est un moyen de délégitimer les programmes sociaux, hein, de délégitimer l'État-providence hérité du New Deal et avec l'argument que ces programmes profiteraient à des populations déméritantes ou immorales. Et c'est ce qu'on voit très bien, par exemple, avec l'exemple de Reagan. Et à l'inverse, on voit que les militantes du Welfare Rights Movement se sont réappropriées ces catégories dans une logique au contraire d'empowerment ou d'émancipation. Et dans un sens, on peut aussi considérer que les historiennes que j'ai citées, hein, qui ont beaucoup écrit sur cette question, ont aussi choisi de s'intéresser aux femmes noires du Welfare Rights Movement par un choix militant, une forme de choix militant dans la recherche et dans leur carrière d'historienne, afin de redonner une visibilité et une agentivité à ces actrices historiques et politiques quelque peu oubliées. Aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment oubliées, puisqu'il y a énormément de travaux sur elles, mais dans les années 90, effectivement, c'était peut-être moins évident. Voilà, bah, je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Tamara, de nous avoir retracé un petit peu l'histoire de welfare américain depuis les années 30 jusqu'aux années 90. Je pense que c'est toujours important pour nous qui sommes en France où l'aide sociale est assez quotidienne et normale et pas forcément tournée sur un ton péjoratif comme tu viens d'expliquer aux États-Unis, de comprendre jusqu'où on peut aller pour avoir une aide. Par exemple, les « Man in the House Rules », je sais que ça m'a beaucoup frappée l'année dernière et ça me frappe encore aujourd'hui. Hein. Et les visites de minuit, les midnight raids, c'est choquant. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça choquant. Quand j'ai appris ça l'année dernière, la première question que je me suis posée, c'est comment ça se fait que je n'étais pas au courant, mais je sais pourquoi. Mais c'est pas quelque chose, je pense qu'on n'est pas forcément très au courant. Et puis, comment est-ce qu'on a pu penser que c'était légal? Et on a un peu déjà parlé du 14e amendement lors de notre pause déjeuner. Le fait que le 14e amendement revienne dans cette discussion, je trouve ça tout à fait à propos. OK, Tamara nous a présenté son travail à la fois sur... il y a des textes juridiques, elle nous a parlé des correspondances administratives, elle nous a parlé des articles journalistiques, elle a cité des landmark cases de Cour suprême. Tout le monde a compris que c'est King versus Smith, Goldberg versus Kelly, ce sont des landmark cases. Vous allez reconnaître Roe versus Wade. Donc, c'est comme ça qu'on cite des landmark cases de Cour suprême. Je suis sûre que vous avez des questions soit sur le sujet en soi, soit sur la méthodologie. Vous voulez en savoir plus, j'en suis sûre.
Oui? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu, pendant le militantisme, un backlash? Est-ce qu'il y a eu de la violence?
Alors oui, absolument. Donc effectivement, le backlash... Il faut savoir que le terme de backlash, il est de moins en moins utilisé par les historiennes et les historiens aujourd'hui, dans le sens où beaucoup ont essayé de montrer que Certes, il y a eu une réaction négative, mais qui en fait précède même le militantisme, parce qu'en fait, voilà, et en fait, c'est ce qu'on voit aussi dans l'exemple, enfin, dans la manière dont j'ai reconstitué cette histoire, c'est que les programmes sociaux n'ont jamais fait vraiment consensus, et il y a toujours eu une volonté de restreindre l'éligibilité aux aides sociales, mais de fait, effectivement, hein, il y a des réactions politiques assez violentes, effectivement, à ce militantisme, et notamment, enfin, c'est dans une lecture que j'avais faite, exemple d'un sénateur de Louisiane, parce qu'effectivement, ces femmes vont aussi militer à New York, elles ont aussi milité à Washington, et donc en 1967, un sénateur, je crois que c'était Russell Long de Louisiane, qui dit, une réaction effectivement assez, extrêmement méprisante en fait, en disant, en fait, si elles ont le temps de venir manifester à Washington, c'est qu'elles ont le temps d'aller travailler, donc en fait, pourquoi est-ce qu'on leur donne des allocations sociales si elles peuvent en fait aller travailler et qu'elles ont du temps libre, voilà, donc c'est sûr qu'il y a une forme de backlash, et en fait, c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a des vraies avancées juridiques qui découlent du Welfare Rights Movement, mais en fait, voilà, le succès est un peu en demi-teinte et de courte durée parce que, alors bien sûr, c'est des questions de relations de pouvoir, mais ce n'est pas vers ces femmes-là que, dans un sens, le balancier penche. Et en fait, le pouvoir politique en fait, continue à réformer l'assistance sociale et au final, c'est vrai que l'inscription dans la durée, elle est pas forcément évidente. Voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas un mouvement qui est très bien perçu par les élus, que ce soit à New York ou à Washington. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a même des historiennes qui disent que justement, si les réformes se durcissent dans les années 1970, c'est une réaction au Welfare Rights Movement. En fait, c'est pour d'autant plus contrôler ces femmes et de leur dire, on arrête de militer, maintenant on respecte les règles, que les réformes ont été mises en œuvre, en fait. Voilà.
Thanks, Layla, for your question.
Est-ce qu'il y a eu des rapports officiels du gouvernement en ce qui concerne le montant estimé des fraudes sociales pendant cette période ?
Alors c'est vrai que c'est une question intéressante parce que de fait c'est très difficile par définition de quantifier la fraude puisqu'on ne sait pas s'il y a fraude, c'est qu'il y a dissimulation, donc on ne sait pas. Et donc effectivement dans les années 50-60 ça va être un grand souci des élus et des administrateurs sociaux que de quantifier la fraude et de créer des administrations qui vont pouvoir enquêter sur la question de la fraude. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est que dans ces années-là en fait des acteurs locaux vont aussi mettre en avant le fait que c'est difficile de quantifier la fraude parce qu'il n'y a pas de définition fédérale qui définissent, enfin, il n'y a pas de texte fédéral qui définisse ce que c'est que vraiment une fraude. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une forme même de flou sémantique, en fait, dans les discours que j'ai étudiés entre fraude et abus. Ce qui n'est pas exactement la même chose, puisqu'une fraude, c'est vraiment enfreindre une règle, donc être dans une forme d'illégalité. L'abus, c'est un peu jouer des règles. Typiquement, multiplier les naissances hors mariage, c'est présenté comme une fraude, mais en soi, ça n'a rien d'illégal. Mais ça devient un abus parce qu'on considère que c'est pour toucher toujours plus d'allocations. Donc en fait, il y a ce flou sémantique qui répond aussi effectivement à une forme de flou juridique. Et c'est vrai qu'au début des années 1960, l'État fédéral va encourager les États, parce qu'en fait, le système de protection sociale fonctionne, c'est un vrai partenariat administratif et fiscal, en fait, entre les collectivités locales, les États et l'État fédéral. Et en fait, l'État fédéral va enjoindre les États à se doter de moyens d'inspection, d'administration spécialisée pour évaluer la fraude. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pour ça que, par exemple, à la fin des années 50, au début des années 60, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent du monde judiciaire aussi. J'ai cité, par exemple, le cas du grand jury de New York en 1958. Un grand jury, en fait, c'est un jury qui est constitué pour enquêter, pour voir s'il y a lieu ou non d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de... Voilà, si jamais il y a un crime qui a été commis. En 1962, à Washington, D.C., il y a aussi un sénateur qui s'appelle Robert Byrd, qui est un sénateur, voilà, c'est un démocrate du Sud, très ségrégationniste, qui met en œuvre une enquête, une grande enquête sur la fraude sociale à Washington pour aboutir à des chiffres et pour quantifier. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les journaux nationaux vont un peu se passionner pour ce genre de récit. Et dans les années 50, dans les années 60, il y a énormément d'articles article du New York Times très sensationnaliste sur 99 personnes mises en examen pour fraude. C'est vraiment des titres qu'on voit très souvent et qui aussi vont aller très loin dans, à nouveau dans le manque de respect de la vie privée des bénéficiaires. Le New York Times va par exemple un peu exposer les fraudeurs sociaux en publiant leur nom, leur âge, leur profession. Donc il y a vraiment aussi une forme d'humiliation publique qui est mise en œuvre pour lutter contre la fraude sociale. Donc tout ça pour dire que c'est très difficile de quantifier la fraude et les pouvoirs publics se rend compte de ce problème et tente de mettre en place des moyens d'inspection comme ceux que j'ai décrits pour justement plus quantifier et mieux lutter contre la fraude. Voilà.
Bertrand avait une question et puis Marine, on reviendra vers vous, ok?
S'il y a une définition officielle de la pauvreté, à quels critères faut-il répondre pour être considéré comme pauvre?
Oui, en fait, à l'époque, le seuil de pauvreté est défini par rapport à un panier de biens de consommation, qui est un panier type, effectivement, qui est établi par l'administration sociale, enfin la Social Security Administration fédérale. Alors, je ne saurais pas dire exactement à ce moment-là quel est vraiment le seuil de pauvreté, mais l'idée de la définition d'un seuil de pauvreté, c'est quelque chose qui va faire vraiment débat au sein de l'administration fédérale. Comment est-ce qu'on établit un seuil? Et le fait est que voilà, c'est par rapport à un panier de biens qu'on peut ou non s'offrir ou s'acheter que va être déterminé le seuil de pauvreté. Mais je ne saurais pas en donner plus d'informations sur ça, pour le coup. Ouais.
Bon, j'avais travaillé comme bénévole à Los Angeles pour aider une banque alimentaire et les personnes, les bénéficiaires venaient dans la mesure où elles prouvaient qu'elles ne pouvaient pas manger plus d'un repas par jour.
D'accord, oui. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pratiques. En fait, l'État social américain, effectivement, repose beaucoup sur un partenariat avec le privé, notamment des associations caritatives. Et c'est un système qui aussi est de plus en plus, en fait, particulièrement depuis les années 90, très décentralisé. Et où les collectivités locales, les initiatives locales sont effectivement très importantes. Donc, effectivement, dans un sens, c'est intéressant de voir que peut-être cette association-là ou peut-être que dans cette ville-là, c'est comme ça qu'on procédait. Mais je pense que ça peut être à géométrie variable aussi.
En fonction des
États. Ouais, voilà. Et en fait, le montant des allocations aussi change d'un État à l'autre. En fait, ce sont les États qui décident du montant de l'allocation ADC dans leur État. Les États payent pour 50% de cette somme et l'État fédéral couvre l'autre moitié. Et donc, par exemple, dans l'État de New York ou en Californie, les allocations sont relativement élevées, en tout cas beaucoup plus que dans des États du Sud, par exemple, où les allocations sont des montants vraiment dérisoires. Donc il y a une sorte de géographie extrêmement disparate, en fait, de à quoi ressemble l'aide sociale aussi, et en termes financiers, notamment, sur le territoire.
Et une autre question que je me posais, c'est en cas de désertion maternelle du foyer, est-ce qu'un père qui se retrouverait seul à élever ses enfants aurait eu droit à ces allocations?
Oui, en fait, il y a des hommes qui touchent effectivement l'allocation ADC. Ils sont proportionnellement peu nombreux. Je pense que ça doit être du 97% de femmes contre 3% d'hommes. Il me semble avoir vu ça. Et en tout cas, c'est une question qui est complètement invisibilisée, dans les discours publics. C'est vrai que on parle d'ADC à partir du moment où on parle des femmes noires qui touchent le programme, la question des hommes effectivement qui le toucherait en fait n'est pas du tout débattue. Ce n'est vraiment je n'ai vu ça dans aucune source ou dans aucun autre travail d'historien, d'historienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout qui n'est pas vraiment documenté, qui n'est pas pris comme un problème à l'époque. Ouais. Peut-être effectivement parce que le chiffre est peut-être dérisoire ou parce que mais en tout cas c'est pas du tout vers ça que se tournent les discours publics en tout cas. Ouais.
D'accord. Merci. Marine.
Alors, merci beaucoup pour cette intervention.
Merci.
On a beaucoup abordé l'élément politique et donc le discours politique et de personnes qui touchent elles-mêmes ces aides, mais est-ce qu'on a aussi des traces de la perception, alors en récit on voice ou par exemple la perception au sein d'une communauté, comment est-ce que les femmes qui reçoivent ces aides le vivent, ce genre de choses, qu'elles en disent elles-mêmes de leur quotidien?
Oui, bah, notamment, c'est ce que retrace bien cette historienne, Lisa Levenstein, A Movement Without Marches, où en fait, elle parle effectivement de la vie quotidienne de ces femmes. Et en fait, ce que montre aussi notamment cette étude, c'est que ce qu'on appelle les fraudes, ce qui est décrié comme les fraudes, les abus, en fait, ce sont vraiment des choses extrêmement, extrêmement minimes. En fait, les règles sont tellement contraignantes qu'on est obligé de frauder. Par exemple, on est obligé de faire des choses qui fait que en théorie on va être considéré comme fraudeuse, par exemple recevoir une forme d'entraide familiale, ça peut être en bénéficiant de cadeaux en nature ou financiers par exemple, ça peut être considéré par l'administration sociale comme une manière de cumuler les sources de revenus et donc c'est un motif d'inéligibilité. Donc en fait il y a une forme, ce qui ressort du travail de Lisa Levenstein, c'est vraiment de montrer qu'il y a une forme d'arbitraire extrêmement humiliant et qui crée une grande insécurité effectivement économique mais aussi psychologique au sein chez ces femmes qui peuvent être effectivement la cible de manière impromptue des centres de nuit que j'ai évoqués. Donc effectivement elle a réussi à retracer cette histoire en tout moment sur des documents juridiques d'associations dans les archives locales à Philadelphie où elle a vu plusieurs témoignages justement des interviews d'histoire orale de certaines de ces femmes donc effectivement ce qui en ressort c'est vraiment effectivement le sentiment d'humiliation d'une forme de et de persécution, d'arbitraire aussi énormément. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le travail des travailleurs sociaux ne se situe pas simplement ne vise pas simplement à déterminer l'éligibilité ou non. Ou aussi une mission un peu moralisatrice, et vont aller expliquer à ces femmes comment elles devraient tenir leur foyer, comment elles devraient s'occuper de leurs enfants, leur dire, parfois leur proposer des sortes de cours de home economics, pour mieux s'occuper. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement infantilisant et très humiliant, et c'est quelque chose qui ressort assez bien de cet ouvrage.
Vous avez parlé des discours politiques, notamment de Ronald Reagan. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui utilisé dans les discours politiques, mais pas seulement pour les femmes noires, pour toutes les femmes, pour toutes personnes qui ont besoin de ces aides sociales? Est-ce que c'est encore dénoncé aujourd'hui par les républicains, les conservateurs?
Oui et non. Oui, parce que effectivement, l'idée selon laquelle le welfare ou l'aide sociale est une forme de charité privée, c'est quelque chose qu'on accorde de manière dérogatoire sur critères de mérite à quelqu'un, mais qu'en réalité, c'est quelque chose qui est qui pourrait très bien être illégitime. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu dans l'imaginaire collectif de beaucoup d'Américains et évidemment au sein de la droite américaine aussi. Le terme de welfare, il reste péjoratif et utilisé de manière péjorative par certains élus. Je pense notamment à ce sénateur de Floride qui s'appelle Marco Rubio au moment où l'administration Biden, pendant le Covid, voulait réformer justement les aides pour les enfants, et notamment il y a un crédit d'impôt qui est accordé aux familles au titre des enfants. Et l'administration Biden voulait renforcer ce crédit d'impôt et l'étendre dans le temps. Et Marco Rubio s'y était opposé en disant « mais non, c'est du welfare ». Donner comme ça de l'argent public de manière... sans contrôle strict, c'est du welfare, c'est une manière de décrédibiliser le projet. Néanmoins, je dirais que c'est... Et effectivement, vous avez raison de dire que c'est pas uniquement sur les femmes noires. Aujourd'hui, bien sûr, la question des migrations, des migrations de complaisance. Alors, elle se pose déjà à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus ce type de pauvreté qui serait visé par ce genre de discours. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, le discours sur, à la fin du XXe siècle, La question de l'aide sociale, c'est un marqueur extrêmement fort politiquement entre progressistes et conservateurs. Et il y a un vrai... Et en fait, jusqu'à la réforme de 96, il y a énormément de réformes de l'aide sociale. Il y a énormément de choses qui paraissent dans la presse sur cette question-là. Depuis la réforme de Clinton de 96, où le programme a été aboli et remplacé par cet autre dispositif temporaire, c'est quelque chose qui défraye beaucoup moins la chronique maintenant. Donc il y a un problème politique dans un sens qui a été assez réglé par la réforme de 96, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus de pauvreté ou que les pauvres sont mieux perçus, mais c'est quelque chose qui est moins central, en fait, néanmoins, dans les positionnements politiques, même si, de temps en temps, effectivement, il y a une résurgence de ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ce moment, je crois que la chanson un peu phare de campagne de Donald Trump, c'est une chanson de country, il y a eu plusieurs articles dans la presse dessus, qui est une sorte de brûlot anti-aide sociale. C'est un chanteur country qui se présente comme lui un petit gars du sud des États-Unis qui est hardworking, voilà, enfin qui vraiment coche toutes les cases de l'éthique américaine, par opposition à tous ces gens qui touchent le welfare, et voilà. Mais donc voilà, et Trump utilise ça comme chanson de campagne en ce moment, voilà. Donc ça reste quand même, voilà, ça reste un sous-texte important, oui.
Il y avait aussi les free lunches qui ont été complètement pas acceptés. Il y avait des programmes pour mettre les déjeuners gratuits ou les petits déj gratuits en place dans les écoles publiques que plusieurs États ont rejeté comme étant de welfare aussi.
Oui.
Françoise?
J'ai deux petites questions. La première question en fait qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le cinéma s'est saisi de ces questions-là? J'ai en mémoire, en fait, l'année dernière, ils ont ressorti en version 4K le Welfare de Fredel Brandsman en documentaire. Mais sinon, d'un côté fictionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des adaptations cinématographiques de certains de ces ouvrages ou,
Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai trop. Il faudrait regarder, mais c'est pas quelque chose que j'ai tellement observé. Effectivement, je pense que on pense tout de suite à Welfare de Wiseman, qui en fait retrace un peu l'enfer administratif que représente pour les gens. Effectivement, comprendre les règles, c'est extrêmement compliqué. D'où le fait que parfois les gens fraudent parce que juste les règles sont tellement compliquées qu'on ne sait pas qu'on enfreint une règle. Mais au niveau de la fiction et du cinéma, j'aurais pas d'exemple. Je connais pas d'exemple de. Il n'y en a peut-être pas, effectivement. C'est intéressant aussi parce que le documentaire de Wiseman a été adapté au théâtre aussi. Et je crois que c'est une pièce qui tourne en ce moment. Elle avait été présentée à Avignon l'année dernière. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a une transposition scénique de ça. Mais je ne connais pas trop d'autres, je connais pas d'autres œuvres de fiction.
Et j'avais une deuxième question. En fait, je pensais à l'administration Obama. Est-ce que finalement cette administration s'est intéressée en particulier à ce type de questions ou pas du tout? Est-ce que parce que vous avez montré dans votre exposé qu'il y avait une claire imbrication entre les constructions, les fantasmes raciaux et tout ce qui concerne effectivement les femmes, le genre et la race? Est-ce que l'administration Obama s'y est intéressée en particulier? Est-ce qu'il y a une action particulière ou pas?
Pas particulièrement. Et je pense que c'est quelque chose qui a été un peu reproché à Obama aussi, c'est d'être le premier président noir sans être le président des Noirs et sans particulièrement effectivement mettre la focale sur les questions d'égalité raciale. Donc je dirais pas particulièrement. C'est vrai que le programme social d'Obama était très centré sur Obamacare, sur l'assurance santé, les questions. Et c'est vrai, en fait, depuis 1996. La gestion des programmes, enfin des allocations d'assistance sociale sont de plus en plus dévolues aux États et de moins en moins à l'État fédéral. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette configuration administrative-là. Après, c'est vrai que l'administration Obama a aussi fait des choses pour les écoles, notamment essayer d'investir dans l'école publique, mais pas spécifiquement dans ce type de dispositif. en fait.
D'accord. Et donc, dans l'Obamacare, il n'y avait pas une disposition, un regard plus fédéral sur, justement, ces prestations
C'est vrai qu'Obamacare s'intéresse vraiment aux questions, enfin, à l'assurance santé. Effectivement, voilà. Donc, avec l'idée d'interdire aux assurances de ne pas prendre en charge d'éventuels clients, et aussi avec l'idée du mandat individuel, des individual mandate, pour obliger, contraindre les gens à souscrire à une assurance santé. Mais de fait, c'est pas non plus un programme de santé universel, mais disons qu'on tend plus vers ça plutôt que vers effectivement un renforcement des prestations pour les populations pauvres, par exemple. Donc dans un sens, c'est plus un programme qui s'adresse aux classes moyennes et sans vraiment de discours sur la pauvreté elle-même, même si, effectivement, l'un des soubassements d'Obamacare, c'était de dire que les dépenses de santé sont une source d'insécurité économique extrêmement importante pour les Américains. Voilà, beaucoup d'Américains qui se ruinent en ayant accès aux soins. Donc voilà, mais c'est un petit peu différent, je pense, des questions vraiment d'aide aux démunis. Ouais.
On avait des questions, commentaires.
Moi, c'est plutôt pour rebondir au niveau du cinéma. Je sais qu'il y a un film qui s'appelle The Help, ou alors La couleur des sentiments, qui est un film de fiction inspiré du roman de Catherine Socket. Mm-hmm. Et ça représente en fait les femmes vivant aux États-Unis en 1962, mm-hmm. dans le Mississippi. Et ça offre une bonne représentation de ce qui peut se passer à ces périodes-là, et aussi la difficulté en fait de trouver du travail. Mm-hmm. Et dans ce film, c'est souvent des femmes seules, célibataires, qui sont représentées. Et donc dans des quartiers précaires.
Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais vu ce film quand il est sorti, mais c'était il y a un petit moment. Et effectivement, ça s'intéresse à un groupe de domestiques en fait qui travaillent dans une famille. Oui, c'est vrai. C'est une bonne référence. Je pense qu'il y a un tout petit peu différent. C'est que dans le cadre de The Help, ce sont probablement, effectivement, dans le sud des États-Unis, sont probablement des femmes qui sont contraintes de travailler, et notamment d'occuper des emplois domestiques, parce qu'elles n'ont pas d'autres, enfin, déjà pas forcément accès à de meilleurs emplois, et aussi probablement parce que les ressources, typiquement l'allocation ADC dans le Mississippi, je pense qu'elle, enfin, j'ai plus le montant en tête, mais je crois que c'est vraiment un montant extrême, vraiment dérisoire par enfant, et donc effectivement, voilà. Avec une forme de contrainte d'intégrer le marché du travail. Et de fait, c'était pensé comme ça. Dans les États du Sud, le choix a été fait de décider de montants très faibles pour les enfants dans le cadre du programme ADC, justement pour contraindre les gens à travailler, notamment dans le secteur agricole, qui est important dans le Sud, et aussi dans le secteur domestique. Oui. Voilà.
Est-ce que vous diriez que, c'est peut-être une question bête, qu'il y a un lien entre le nombre de femmes noires américaines qui élèvent leurs enfants seules et l'incarcération, si je puis dire, de masse des noirs américains à ce moment-là?
En tout cas, c'est un lien que fait une historienne qui s'appelle Heather Ann Thompson et qui est l'une des principales historiennes effectivement de l'incarcération de masse et de l'état carcéral aux États-Unis. Et en fait, elle a écrit un article en 2010 qui s'appelle Why Mass Incarceration Matters. Et en fait, dans cet article, elle explique que l'incarcération de masse est centrale pour comprendre tout un tas de développements historiques aux États-Unis. Et l'un des développements historiques qu'elle met en avant, c'est ce qu'on appelle la crise urbaine. Et en fait, et notamment la question de la pauvreté urbaine. Et en fait, dedans, dans ce développement, elle explique que, effectivement, s'il y a de plus en plus de familles monoparentales, effectivement, avec des femmes où les femmes sont centrales au sein des familles noires, c'est aussi parce que les hommes sont très souvent, et beaucoup plus que les hommes blancs, les hommes noirs sont envoyés en prison, parfois pour des crimes ou des délits relativement minimes. Donc effectivement, que cette désorganisation familiale, elle est liée en fait à l'incarcération de masse, qu'on associe plutôt à la fin des années 60, voilà, mais dans sa chronologie, effectivement, elle parle des années 60. Et où aussi elle dit que l'incarcération de masse l'incarcération étant une porte vers une forme de désocialisation aussi, en fait, la sortie de prison étant très difficile, ça participe à l'insécurité économique des familles aussi, puisque quand on sort de prison, on a du mal à trouver un emploi, il y a une souffrance psychologique aussi qui est associée. Et donc, effectivement, le délitement économique des familles noires, pour elle, est lié effectivement aussi à ça. Donc, c'est pas du tout une question bête. Je pense que c'est très intéressant. Si vous voulez, vous pouvez aller voir cet article qui s'appelle Why Mass Incarceration Matters, qui date de 2010, et elle parle de ça effectivement.
Marine.
Alors, du coup, je voulais revenir aussi un peu sur les night trains qui sont vraiment en effet choquants et voilà. C'est pas du tout ma période, et pas du tout mon âge de bac, donc je serais une grande experte pour m'occuper. ça me rappelle aussi un petit peu au final toutes les techniques d'intimidation de la Lavender Scare ou Red Scare, qui était du coup au final la décennie juste avant. C'est une technique d'intimidation. Est-ce qu'on voit que ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des femmes qui disent se retenir d'avoir des relations justement parce qu'elles ont peur de ce genre de technique? À quelle violence est-ce que ça pousse aussi?
Alors, c'est assez intéressant ce que vous dites sur le Lavender Scare, parce qu'effectivement, j'ai un peu travaillé sur la question de la fraude sociale à New York, et c'est vrai que dans les années 50, quand les élus s'intéressent de plus en plus à la question de la fraude sociale, les dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre la fraude sont assez largement inspirés de ce qui se pratique, pour débusquer les espions communistes, et notamment dans le contexte du McCarthyisme, dans la définition, qui est faite par l'État de New York du délit de fraude, c'est vraiment des choses comme se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, ou c'est de la même manière que pour lutter contre l'infiltration communiste au sein de l'administration fédérale, les fonctionnaires devaient prêter serment de ne pas être communistes. La mairie de New York fait signer un document aux bénéficiaires de l'assistance sociale pour une espèce de long document qui dit je ne perçois pas de ressources non déclarées, je ne vis pas en réalité avec quelqu'un qui subventionne à mes besoins. Enfin, il y a une forme d'exigence de transparence, en tout cas, qui je trouve est assez intéressante. Et effectivement, c'est un peu l'idée de... que la vie privée, effectivement, est une notion assez relative et en fait est aussi à géométrie variable. En tout cas, les pauvres, eux, n'ont pas vraiment droit à la vie privée, notamment dans ce contexte. J'ai oublié la fin de la question.
Les techniques d'intimidation, est-ce qu'elles fonctionnent ?
Ah oui. Eh bien, ça, je ne sais pas vraiment. Je pense, et honnêtement, je ne pense pas, je ne sais pas. Je vous avouerai, je ne sais pas. Je pense que c'est dur à identifier. Il faudrait peut-être regarder. C'est mon exemple dans l'ouvrage de Lisa Levenstein. Je me rappelle pas si elle fait état effectivement de relations qui auraient été écourtées en raison de cette pression là. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà.
Merci. Puis c'est intéressant aussi. Par exemple, à la Lavender Scare, on passe de personnes queer à des femmes black, donc au final, on a toujours une technique de scapegoating pour bien les mettre en avant, les faire passer dans les journaux, comme vous disiez, avec ce sensationnalisme.
Oui, tout à fait, absolument. Enfin, c'est vraiment des... Enfin, c'est une forme de name and shame qui est en fait inhérent à beaucoup d'autres domaines en fait, hein, que juste la question de la fraude sociale. Oui, absolument.
C'est quelque chose de très symbolique.
Et en fait, j'en ai pas parlé, mais un autre dispositif aussi qui est mis en place de manière, en tout cas dans l'État de New York, c'est d'essayer... Comme la question de la désertion paternelle est importante, de fait, parce qu'on dit c'est parce que les pères sont absents et incompétents que ces familles sont monoparentales, il y a des dispositifs en fait, de traque des pères déserteurs qui sont mis en place aussi. Pour les contraindre à payer une pension alimentaire, l'une des choses qui va être préconisée, même si moi j'en ai pas vu de traces réelles, c'est de publier dans la presse le nom, voire des photos des hommes en question. Voilà. Ouais. Bon, j'en ai pas vu de réalité dans les années 50-60.
Dans un sens, c'est un peu intéressant parce que maintenant, il y a pas mal de shows américains, par exemple. J'arrête pas d'avoir des micro-clips sur Instagram, c'est comme ça, d'une émission où on fait venir le père devant une cour de justice parce qu'il ne paye pas.
D'accord.
Les allocations pour les enfants. Là, et du coup, c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec les réseaux sociaux.
D'accord. Et ben voilà. Je savais pas ça. D'accord, ouais. Ok, c'est marrant. Mais oui, c'est en fait c'est le stéréotype un peu moins présent, mais quand même, enfin, dont on parle un peu dans les années 80 du deadbeat dad, voilà, du père incompétent, un peu dilettante. Voilà, et effectivement, au moment où on s'intéresse à la fraude, on s'intéresse aussi à la traque des pères déserteurs. Mais bon, c'est pas non plus dans les années 70, 80, 90, ça devient pas l'élément central, quand même. Ouais.
Voilà. Et les femmes blanches qui bénéficiaient de l'aide, elles ont réagi comment? Elles ont fait profil bas ou est-ce qu'elles se sont mobilisées à côté des femmes noires?
Bah, c'est vrai que on les voit assez peu en fait dans la mobilisation en tout cas du Welfare Rights Movement, dans le sens où c'est vrai que c'est un mouvement qui est vraiment une émanation du mouvement pour les droits civiques, mais c'est vrai que en fait le discours public se focalise sur les femmes noires, mais en réalité il y a énormément de femmes blanches qui touchent le programme, et en fait des personnes blanches qui touchent tous les autres programmes d'assistance, c'est tout à fait évident, mais il y a une vraie invisibilisation de cette question là à la fois dans les discours publics, et c'est vrai que les historiennes qui se sont intéressées à cette histoire se sont surtout intéressées aussi aux femmes noires. Donc en fait, j'aurais pas vraiment d'exemple de femmes blanches qui auraient touché ADC ou AFDC à partir de 62, qui auraient pris part aussi à ce combat.
Pas d'alliés, en fait. Il n'y a pas beaucoup de témoignages d'alliés.
Ouais.
OK. J'avais aussi une question. Comment ça se passait, par exemple, quand les fameux pères, la désertion parentale, mais quand ça a touché, par exemple, les départs en guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, comment ça se passait? Est-ce que les femmes ou leurs maris partaient en guerre, est-ce qu'elles touchaient quand même les allocations sociales?
Je pense pas, parce que, alors, je me suis pas intéressée spécifiquement à cette question, mais le fait est que c'est vraiment la question de la structure familiale qui est importante et pas juste, enfin, donc, s'il y a un père quelque part qui a un revenu, a priori, on n'est pas éligible à l'aide, voilà. Donc, je pense que non, en fait. Dans ce cas-là, la pension ou le salaire, en fait, du mari se substitue en fait à ce type de dispositif, donc là l'éligibilité, je pense, n'aurait pas le cours. Oui, voilà, c'est pas vraiment une.
Oui. Départ en guerre, est-ce que d'un point de vue administratif, est-ce que une femme devait prouver que son mari était allé partie en guerre et non pas seulement partie du foyer? Est-ce que c'était il y avait des registres, je ne sais pas.
J'ai pas vu ce genre de choses. Après, oui, à nouveau, ça aurait pas vraiment été une désertion. Après, typiquement, si le mari était mort en guerre, par exemple, là, ça aurait été autre chose. Mais sachant que dans le cadre des couples mariés, il y aurait aussi d'autres dispositifs dans le type pension de réversion, typiquement, voilà, si un des conjoints mariés, l'un meurt, l'autre peut toucher les prestations de retraite au titre du conjoint décédé. Enfin, donc je pense qu'il y aurait aussi d'autres dispositifs plus assurantiels qui, dans ce cas, viendraient aider la famille en question plus que des programmes d'assistance, vraiment. Ouais.
Bah, Tamara, tu as devant toi les Master 1 qui rédigent leur plan pour mon cours, mais aussi le plan pour leur mémoire. Il y a les Master 2 qui rédigent leur mémoire. Il y a les doctorantes qui, normalement, pour le plan, c'est bon, mais qui partent bientôt en terrain de recherche. En tant que chercheuse confirmée, est-ce que tu souhaites donner quelques conseils ou quelques encouragements?
Ah ben, les encouragements, oui.
D'accord.
Dans le sens où je pense que c'est vrai qu'écrire un mémoire ou une thèse, c'est difficile, parce que c'est un gros travail. Mais je pense que c'est aussi, si on est assez passionné par ce qu'on fait, si on a un vrai intérêt pour ce qu'on fait, c'est aussi vraiment un espace de travail très précieux, en fait, qui est à la fois très personnel, sur lequel on a énormément de contrôle. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de ce genre d'opportunité où l'autonomie dans le travail, en fait, donne aussi une forme de liberté d'explorer des thématiques, des lectures, des corpus qui nous intéressent particulièrement. Dans le cadre de la thèse, je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est l'idée que la thèse, c'est le lieu de l'exhaustivité. Dans un article ou dans un livre, on est forcément tenu par un nombre de mots, mais la thèse, c'est un peu le lieu de la liberté où on peut un peu aller dans les détails sur tel point. Peut-être que c'est pas le truc le plus important. Alors, évidemment, méthodologiquement, il faut quand même que ça se tienne, mais je pense que c'est on peut aussi vraiment se faire plaisir en fait comme ça, et ça, c'est vraiment chouette.
Merci beaucoup, Tamara.